Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus Tour et vous écoutez Revolution 909, l'émission qui raconte l'histoire de la musique électronique. Le mois dernier, j'avais parlé d'une partie de la production musicale électronique des années 60 et 70, entre rock progressif, rock psychédélique, krautrock, rock, musique ambient, jazz fusion, musique cosmique et enfin Kraftwerk. Aujourd'hui, on va faire en sorte de retracer les précurseurs directs et le contexte musical dans lesquels la house et la techno sont nés au milieu des années 80. Il fallait s'y attendre, même si on en a beaucoup parlé, on n'a pas tout à fait fini avec les années 70. La déflagration punk renouvelle le rock entre 76 et 78. En réaction à la sophistication du rock progressif et à l'extravagance du glam, des groupes comme les Sex Pistols ou les Ramones balancent des morceaux énervés, rapides et simples. Avec des accords qui se comptent sur les doigts d'une demi-main et des paroles nihilistes, type No Future, et une philosophie do it yourself, le rock redevient une musique primaire, animale, dont les jeunes s'emparent immédiatement. Dès 1977 et 78, de nombreux jeunes groupes vont être étiquetés post-punk, surtout New Wave. New Wave, nouvelle vague en français, est un terme un peu fourre-tout désignant des groupes de rock qui assimilent un peu tout ce qui fait la pop et le rock dans les années 70. Le punk, le krautrock de Kraftwerk, le glam rock de Roxy Music, la disco, par exemple certains tubes de Blondie sont d'authentiques morceaux disco, et le tout infusé de boîtes à rythme et de plus ou moins de synthétiseurs. Pour aller vite, New Wave désigne ce qui est aujourd'hui reconnu comme alternatif. Un pot-pourri inclassable d'influences diverses. Même s'il est pas mal inspiré du punk, la New Wave se concentre plus sur l'immatériel, les émotions, et donc a un côté plus arty et mélodique. Très branchés et souvent originaires de banlieues anglaises, les groupes qui vont avoir du succès pendant une large partie des années 80 se créent à la fin des années 70. Siouxsie and the Banshees et Bauhaus contribuent à l'émergence du New Wave gothique, avec un rythme hypnotique et des boucles mélodiques répétitives. Alors qu'à Manchester, le label Factory assemble Joy Division puis sa suite New Order à partir de 1980, ainsi que Orchestral Manoeuvre in the Dark. À partir de 1978, les Cure explorent les différentes facettes du vaste courant dont ils sont devenus l'un des représentants les plus célèbres, avec des albums tantôt optimistes et pop comme The Head on the Door en 1985, tantôt sombres et froids comme Pornography en 1982. Les récurrences sonores de la New Wave sont compliquées à choisir, tant le terme n'a pas vraiment de sens. Néanmoins, on peut déjà retenir premièrement l'utilisation régulière de boîtes à rythme, ou au moins de rythmes de batterie échantillonnés et mis en boucle. Cette pratique apparaît déjà dans la disco pour maintenir un rythme uniforme pour les danseurs. Côté New Wave, les morceaux vont souvent avoir tendance à être très nerveux, avec un rythme automatisé et souvent rapide, qui reprennent le four to the floor, une grosse caisse sur tous les temps. La voix du chanteur est souvent monotone et parfois noyée dans beaucoup de réverbérations.
Allô ?
En guitare, les effets les plus emblématiques et par conséquent les plus datés sont le chorus ou encore le flanger, que l'on peut entendre régulièrement chez les Cure. Et puis je le disais un peu avant, ces groupes ont tendance à intégrer des sons électroniques dans leurs morceaux. À tel point qu'un courant très électronique entre la scène et New Wave se développe en même temps, c'est la synth-pop.
Ok, ready, let's do it.
Little people like your offspring, boil alive for some guy.
just kids in oven. There's no excuse for thoughtless slaying. Children don't forget this torture. Just because you call her mother doesn't mean that she's your better.
On vient d'entendre Being Boiled de The Human League, sorti en 1978. C'est l'un des premiers morceaux de pop synthétique qui vont marquer la décennie 1980. En dignes héritiers de Kraftwerk et du trio japonais de Yellow Magic Orchestra, certains groupes comme The Human League, qui sont particulièrement branchés sur l'électronique, produisent une pop synthétique qui peut aussi bien être froide et mécanique qu'insouciante et légère. Cette deuxième variante est celle qu'on en retient généralement le plus par le nombre de tubes aux mélodies cultes qu'elle contient. La synth-pop est évidemment l'un des styles qui caractérise le plus les années 80 musicalement parlant, avec des sons qui viennent de synthés iconiques comme le Jupiter 8, l'Arp 2600 ou le Yamaha DX7, et de nombreux groupes comme Depeche Mode, Eurythmics, Bronski Beat, dont on vient d'entendre un extrait, Duran Duran, Tears for Fears ou les précurseurs Ultravox ou Gary Numan. Je préfère le préciser, il y a beaucoup d'autres groupes peut-être plus connus que ceux-là, mais j'ai voulu prendre ceux qui utilisaient spécifiquement des instruments électroniques, pas juste des groupes à guitare. En France, des groupes de rock comme Téléphone ou Indochine ont participé à la popularisation de la New Wave, en adoptant dans certaines de leurs productions des sonorités électroniques. Au niveau technique, j'aimerais par contre vous parler du groupe Art of Noise. Créé en 1983 par quelques musiciens, un producteur et un journaliste, le groupe utilise quasi exclusivement la technique du sampling, de l'échantillonnage. Si ça peut paraître évident ou facile aujourd'hui, recourir au sampling au début des années 80 est encore très rare et cher. Or, Art of Noise possédait une machine, le Fairlight CMI, autrement dit le tout premier sampleur commercial. Grâce à ce petit bijou, les membres du groupe s'amusent à créer des morceaux basés exclusivement sur des sons échantillonnés, très mélodiques malgré la tentation compréhensible d'intégrer de simples bruits. L'utilisation innovante du sampling par le groupe marque profondément la manière dont s'utilise l'échantillonnage. Encore aujourd'hui, l'évidente utilisation du sampling dans beaucoup de morceaux électroniques, ainsi que la similarité entre les productions Vaporwave contemporaines et celles d'Art of Noise, prouve le statut de précurseur et de visionnaire du groupe anglais. We'll be right back. Vous êtes bien sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Toujours dans Revolution 909, on vient d'écouter Moments in Love de Art of Noise, sorti en 1983. Pour ceux qui s'en rappellent, Art of Noise, l'art du bruit en français, fait évidemment écho au manifeste de Luigi Russolo en 1913, dont on avait parlé dans la première émission. Ce manifeste, issu du mouvement futuriste, chantait les louanges des nouvelles possibilités sonores de l'ère industrielle. D'ailleurs, la New Wave, particulièrement en Europe, est marquée par une forme de musique bruitiste apparue dans les années 1970, la musique dite industrielle. En 1976, le groupe expérimental anglais Throbbing Gristle lance le label Industrial Records. La musique du groupe et du label utilise des synthétiseurs et les machines électroniques pour produire une musique très marquée par les sonorités industrielles. Vient d'entendre s'appelle Internal Bleeding, titre plutôt explicite, du groupe australien SPK. Les paroles et l'imagerie de la musique industrielle tournent autour de thèmes obscurs et extrêmes, avec une sorte de regard romantique sur le conditionnement que l'âge industriel opère sur les hommes. Inspiré par John Cage et la musique concrète, par Kraftwerk aussi bien que par le rock psychédélique, progressif ou improvisé de Frank Zappa, l'esthétique industrielle est très tôt adoptée par des groupes à guitare. Celui qui nous permet de faire le lien entre industriel et New Wave, c'est Cabaret Voltaire, parfois étiqueté Cold Wave à ses débuts pour son côté glaçant. C'était Nag Nag Nag, de Cabaret Voltaire, sorti en 1980. Le groupe originaire de Sheffield, en Angleterre, adopte donc après ses débuts sur Industrial Records un style moins expérimental, plus rock, puis très électronique dès 1983, tout en conservant des paroles très centrées sur des problématiques économiques et sociales qui touchent les villes industrielles anglaises dans les années 80. D'ailleurs, fait intéressant, le virage électro-funk du groupe en 1983 prouve une certaine compatibilité entre les thématiques industrielles plutôt abordées par des groupes blancs et les sonorités funk qui proviennent de musique noire. Dans tous les cas, la musique industrielle va considérablement influencer la musique électronique dans sa façon d'utiliser des samples et de travailler le sound design. À partir des années 80, il y aura toujours un pan extrême de la musique électronique, que ce soit l'électro-industriel, puis plus tard la techno-hardcore, et ainsi de suite. We'll be right back. Parlons maintenant d'un groupe de Düsseldorf issu de la New Wave allemande, la Neue Deutsche Welle, inspiré par leur voisin Kraftwerk et par la transgression du punk. Le morceau que l'on vient d'entendre s'appelle Der Mussolini et il est signé Deutsch-Amerikanische Freundschaft, ou DAF. Un groupe né de la rencontre entre un punk d'origine espagnole au chant et d'un pianiste classique qui se retrouve à la batterie. Malgré l'utilisation d'une vraie batterie acoustique, le duo utilise massivement des synthétiseurs pour accompagner la voix dans une musique rapide et dansante. Le côté punk du chanteur se retrouve dans les paroles évoquant avec dérision les régimes totalitaires, ainsi que dans l'esthétique androgyne visible en concert ou sur les pochettes d'albums. DAF, parmi Kraftwerk et différents autres groupes synth-pop ou industriels, contribue au début des années 80 à l'émergence de l'EBM, ou Electronic Body Music. Les samples de bruit mécanique et d'enregistrement de voix se mêlent à un rythme hypnotique et des synthés pas forcément très mélodiques, qui répètent souvent la même séquence d'une mesure. Moins arty que la new wave légère et mélodique, l'objectif ici est vraiment de faire danser, moins d'atteindre les charts. L'un des plus célèbres groupes d'EBM auprès de Frontline Assembly et Netherhead est belge et s'appelle Front 242. C'était Commando Mix, un titre de 1984 du groupe belge Front 242. Dans un délire moins rythmé, il paraît cohérent que le courant industriel s'inspire tôt ou tard de la musique ambiante de Brian Eno. En fait, l'ambiante industrielle se construit très vite comme le penchant sombre de l'ambiante, avec tout un travail sonore sur les drones, des échantillons de sons de machines, d'autres évoquant la froideur, l'angoisse ou un sentiment d'horreur, soit d'origine satanique, soit d'inspiration SF.
caused by a demon.
C'était un extrait de Beckoning, un morceau daté de 1984 de Lustmord, ex-membre du groupe SPK dont on a pu entendre les exploits tout à l'heure en intro sur la musique industrielle. Fait intéressant, les crédits de l'album dont est issu le morceau mentionnent divers lieux de field recording, notamment la crypte de la cathédrale de Chartres. Ça avait l'air plutôt festif. Sans surprise, le genre a développé beaucoup de liens au fil du temps avec le black metal et tout ce qui mélange métal et industriel. Aussi, le Dark Ambient est depuis ses débuts dans les années 80 surtout produit pour accompagner des films ou encore des jeux vidéo. Transition parfaite pour parler de la musique créée pour l'audiovisuel. Même avec la préférence de Stanley Kubrick pour la musique classique, ou encore le retour en force des bandes-sons orchestrales avec les premiers Star Wars sortis entre 77 et 83, l'électronique s'invite de plus en plus au cinéma. On a déjà vu la dernière fois quelques compositeurs français comme Jean-Jacques Perret, ou encore la percée des synthés de Wendy Carlos dans Orange Mécanique. Celle-ci reprend malgré tout de la musique classique, mais c'est un moindre mal avec Kubrick. En 1980, celle-ci réitère l'expression dans l'adaptation de Shining par Kubrick également. Puis dans le film Tron, en 1982, cette fois avec moins de synthé et plus d'orchestration classique. En 1982 sort aussi Blade Runner, le blockbuster de Ridley Scott, pionnier du cyberpunk, avec une bande-son conçue par l'un des collègues de Klaus Schulze et Jean-Michel Jarre, Vangelis, dont le style est bien représenté dans ce Blade Runner blues. Un peu plus tôt, en 1978, le producteur de disco italien Giorgio Moroder, dont on va parler plus tard dans l'émission, concocte une bande-son très dansante pour le film Midnight Express. Il embraye ensuite en participant à la bande-son de American Gigolo, et on lui donne notamment What a Feeling dans Flashdance, Push It to the Limit dans Scarface, tous les deux sortis en 1983. Sans Moroder, les années 80 ont vraiment de saveur vu d'aujourd'hui. En 1983 toujours, Ryuichi Sakamoto, l'un des trois compères du groupe synth-pop Yellow Magic Orchestra, se met à la bande-son cinématique en poursuivant les évocations asiatiques dans Furio, un film sur un camp de prisonniers dans le Japon de 1942, où se défient Sakamoto lui-même en chef du camp et David Bowie en soldat américain. Thank you. Vous êtes bien sur Radio Campus Tour 99.5 FM, toujours dans Revolution 909. On vient d'entendre Merry Christmas Mr. Lawrence, issu de la bande-son de Furio, composée par Ryuichi Sakamoto en 1983. Deux petits faits pas très importants. Premièrement, Sakamoto est aussi le compositeur de la musique du film The Revenant. Et deuxièmement, le thème qu'on vient d'entendre a été samplé dans l'instru de Chiki Chiki de PNL en 2016. Ce qui, une fois annoncé, paraît totalement logique, tant le rythme et l'ambiance collent au style particulier des deux rappeurs. Bon, sinon pour les amateurs de synthwave contemporaine, il y a évidemment une connexion très forte entre synthétiseurs et musique de films des années 80, renforcée par les clips et l'univers d'artistes comme Kavinsky ou même du film Drive. Le nom même de Carpenter Brut est un hommage à peine caché à l'un des maîtres du cinéma d'horreur, le réalisateur et compositeur John Carpenter. Celui-ci vit son premier succès en 1978 avec Halloween, dont la bande-son ressemblant à Tubular Bells dans L'Exorciste, marque les spectateurs pour son côté particulièrement stressant bien que minimaliste. Côté bande-son, il continue dans les années 80 avec tour à tour son film Fog, New York 1997, Halloween 2, The Thing en collaboration avec Ennio Morricone, Christine ou encore Invasion Los Angeles. Vu que je prépare l'émission, j'en profite pour placer ma musique préférée de sa filmographie, à savoir le thème de The Thing, composé par Ennio Morricone et joué par Carpenter. Pour rappel, des scientifiques isolés en Antarctique découvrent non loin de leur base une chose. Ils comprennent très vite que cette chose peut prendre n'importe quelle forme, même humaine. Voilà l'idée. La répétitivité des deux notes qui reviennent régulièrement dans la bande-son du film utilise à merveille la sonorité synthétique pour que le spectateur entende ce qui s'apparente à un battement de cœur, mais tellement régulier et fixe qu'on finit par soupçonner la chose de tenter d'imiter une caractéristique humaine. Comme ici, la musique de films d'horreur utilise très souvent les synthés, à la fois sans doute pour paraître moderne, mais aussi pour renforcer le sentiment d'étrangeté, d'ailleurs, ou tout simplement la tension horrifique. Au-delà de Carpenter, on peut citer la BO de Forbidden World par Suzanne Justin, celle des Griffes de la Nuit par Charles Bernstein. Écoutons rien que pour le plaisir un passage de la BO du film italien Ténèbres par le groupe Goblin. Et oui, c'est bien ici que le duo français de Justice a déniché ce fameux sample dans Phantom Part 1 et Part 2. Bon, maintenant pour la deuxième partie de cette émission, faisons le point sur deux formes de composition et de diffusion musicale que l'on retrouve partout aujourd'hui dans la musique contemporaine. D'une part, on assiste dans la deuxième moitié du XXe siècle à l'invention de la figure du disque jockey, sorte de mélange entre les rôles d'ingénieur son, de sélectionneur de disques et d'animateur. De l'autre côté, s'il y a des DJ, c'est que depuis cette même période, la diffusion publique de musique enregistrée devient une pratique courante qui jouxte les concerts où la musique est interprétée en direct par des musiciens. Par exemple, à peu près tout ce qu'on a vu de la New Wave jusqu'ici. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale qui contribue au développement de l'industrie discographique, parallèlement à celui de la radio, surtout en Occident. En France, s'il existe des dancings depuis le début du siècle, les lieux de fête consacrés à la danse ont de plus en plus recours aux disques et à ceux qui les passent, les disquaires. Les clubs et discothèques se développent donc durant les années 50. En Jamaïque, dans les Caraïbes, l'essor de la production de disques locaux accompagne la pratique déjà ancrée du sound system, du nom de ces gros haut-parleurs nomades où des disquaires diffusent de la musique dans la rue pour les populations noires pauvres qui ne peuvent pas accéder aux salles de concert traditionnelles. La culture sound system, c'est entre autres la concurrence féroce entre les disquaires de chaque sound system qui doivent se démarquer des autres en passant telle ou telle musique, en mixant de différentes manières. Cette situation finit par conduire certains diffuseurs à produire eux-mêmes leur propre musique en amont, afin de la diffuser ensuite dans leur sound system, créant ainsi une scène musicale jamaïcaine très dynamique et qui, on le sait, va finir par s'exporter internationalement. Pour aller vite, les années 60 voient arriver le ska, puis le ragamuffin et enfin le reggae. Mais ces trois styles-là rendent quand même possible le concert de musiciens au-delà d'une diffusion dans le sound system. Ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui va suivre cette soirée de 1967 où un disque jockey nommé Rudy Rickwood va malencontreusement diffuser une version instrumentale d'un morceau reggae à la suite d'une erreur de gravure du dubplate, un type de disque en acétate que l'on utilise pour tester le morceau avant la commercialisation. C'est le premier remix de l'histoire. Rickwood a dû bien stresser sur le moment, mais en fait le public, peut-être sous l'effet de la surprise, a plutôt bien réagi. Bunny Lee, qui était dans la salle ce soir-là, fait part de l'enthousiasme généré à King Tubby, l'ingénieur du son à l'origine de la version instrumentale accidentelle. Celui-ci va alors se mettre à produire plein de phases B instrumentales. Petit à petit, il peaufine son travail de remixage, en mettant davantage en avant la batterie et la basse, et en ne mettant que quelques bouts de phrases du chanteur, tout en appliquant différents effets comme de la reverb, du delay, du phaser, des filtres. King Tubby est l'un des premiers ingénieurs du son qui va avoir une réelle notoriété dans le milieu. On peut le considérer aisément comme un artiste, tant ses expérimentations avec des machines électroniques sont créatives et originales. Il continuera sa carrière dans les années 70 aux côtés notamment de Lee Scratch Perry, un autre producteur et ingénieur son qui a notamment travaillé avec le groupe initial de Bob Marley, The Wailers. Vous êtes bien sur Radio Campus Tour 99.5 FM et vous écoutez Revolution 909, votre émission sur l'histoire de la musique électronique. On vient d'entendre King Tubby Meets the Rockers Uptown, l'un des morceaux les plus connus de King Tubby, l'un des fondateurs du dub. On aura l'occasion d'en parler plus tard, mais l'influence musicale de la Jamaïque va donner naissance au rap dans les années 80 et continue d'infuser toute la musique électronique britannique. Le dub rassemble donc des morceaux instrumentaux longs, relativement expérimentaux, qui cherchent à faire danser les gens et participent d'un renouvellement créatif de la musique jamaïcaine. Partons maintenant aux États-Unis. Les années 70, là-bas, c'est une période compliquée. Entre montée de la criminalité, guerre du Vietnam qui n'en finit pas, et contre-coup après le mouvement des droits civiques des années 60. À New York particulièrement, la situation est très critique et la ville s'endette considérablement, surtout après le premier choc pétrolier en 1973. Dans le même temps, les nightclubs offrent donc des mouvements d'évasion nocturne bienvenus pour les danseurs de tous bords. L'origine un peu contre-culturelle de ces clubs, avec la libération sexuelle ou l'usage de la drogue, amène une population très hétérogène, noire, blanche, homosexuelle ou non. Certains clubs gays privés sont d'ailleurs créés spécialement pour garantir la sécurité à ses clients, éviter des actions policières ou des tabassages. Une véritable culture disco, qui vient des discothèques, apparaît donc au début des années 70. L'un des premiers morceaux qui peut être considéré comme disco, peut-être Soul Makossa, l'un des tubes, le plus gros tube du saxophoniste Manu Dibango, créé en 1972. Niveau musique, ces clubs diffusent un mélange de jazz, de rhythm and blues, de soul, de funk, tous des genres que la Motown, le gros label de Chicago, a aidé à populariser, auxquels s'ajoutent des éléments psychédéliques et des rythmes latins. Ces musiques, majoritairement noires, constituent une alternative à toute la scène rock music de l'époque. En effet, la soul de New York ou de Philadelphie, à l'époque, joue à fond la carte des orchestres à cordes, des arrangements aux couleurs jazz et d'une production très millimétrée. Comme pour le dub, ces musiques sont jouées par un disque jockey, dont le but est de faire rester les gens sur la piste, de maintenir une ambiance. Ainsi, des DJ précurseurs comme Terry Noël ou Francis Grasso vont sélectionner des morceaux plus longs, donc plus faciles à mixer avec d'autres. Et ils vont utiliser deux platines à vitesse réglable pour éviter les temps morts entre deux disques et faire des transitions fluides. Certains DJ créent des remixes maison avec leur matériel, en modifiant la structure ou en renforçant la batterie. Les morceaux spécifiquement conçus pour les discothèques adoptent progressivement un caractère langoureux, léché, faisant une synthèse de plein de genres populaires noirs tout en accentuant la section rythmique. Tout est fait pour que l'on reste dansé. C'est la disco qui fait par exemple émerger le fameux « Four to the Floor », la grosse caisse sur tous les temps, caractéristique de nombre de ses descendants. Ce caractère méticuleux conduit progressivement la disco à devenir pop, en étant produite par des grosses majors, avec des têtes d'affiche de plus en plus blanches, pour toucher un large public. Le genre devient un véritable phénomène de société avec le film Saturday Night Fever en 1977, qui montre le mode de vie des adeptes des discothèques, avec la bande-son qui correspond. C'est dans ces dernières années de la décennie qu'on en retrouve le plus de tubes disco intemporels, comme ceux de Chic, ABBA, les Bee Gees ou encore de la fratrie Jackson. Toutefois, l'effet de mode s'estompe en 1979, à un moment où le grand public se lasse d'un genre vu comme trop commercial, cervelé. Les ventes s'estompent et le slogan « Disco sucks » se popularise notamment après la Disco Demolition Night. Un match de baseball où une émeute menée par un DJ d'une radio rock conduit le public à rassembler ses disques de disco pour les faire exploser sur le terrain. Paradoxalement, le continent européen a beaucoup contribué au genre disco à partir de la deuxième moitié des années 70, avec de nombreux producteurs très influents à l'international. On peut parler d'ABBA en Suède qui remporte un succès mondial, mais c'est surtout le français Ceron avec Supernature et l'italien Giorgio Moroder qui vont significativement faire évoluer la disco vers un son résolument plus synthétique, à coups de synthé et de boîte à rythme. Giorgio Moroder qui va contribuer dans les années 80 à lier pour toujours des films à des bandes-sons électroniques et pop, comme on l'a vu tout à l'heure. La vague électronique portée par Giorgio Moroder porte ainsi tout un mouvement de disco italienne, nommé Italo Disco. Lancé au début des années 80, l'Italo Disco a dès son apparition été mal accueilli, critiqué pour être sans intérêt, lisse, niais et ringard, même si quelques titres ont rendu succès outre-Atlantique dans les clubs. Car même si la disco s'effondre en tant que genre grand public, elle continue à exister sous une forme évoluée dans les clubs LGBT dont elle est originaire, dans les grandes villes côtières américaines comme New York ou San Francisco. Le début des années 80 voit ainsi apparaître une disco définitivement synthétique, plus rapide, avec des synthés très saccadés et ce qui s'appelle des basses syncopées, qui se baladent entre les temps forts et les temps faibles. Parmi les grands succès du genre, on peut compter You Spin Me Round de Dead or Alive, l'un des seuls tubes high energy à être resté des années 80. Pour autant, les véritables créateurs du genre sont un New Yorkais, Bobby Orlando, et un franciscanais, oui c'est ça le bon terme, qui s'appelle Patrick Cowley. Ce dernier sera malheureusement l'une des toutes premières victimes du sida en 82, un an après la sortie de ce morceau. Vous êtes toujours dans Revolution 909 sur Radio Campus 99.5 FM. Bon, mais revenons au sound system jamaïcain. Si vous vous souvenez bien de la vidéo YouTube de Seb Lafrit sur l'histoire du rap, en fait, le côté musical de la culture hip-hop provient très largement de la façon de produire de la musique en Jamaïque et aussi de la consommer. Clive Campbell, ou DJ Kool Herc, est considéré comme le père du hip-hop. Né en Jamaïque en 55, il a le temps de découvrir les sound systems ainsi que les toasts, les paroles des DJs par-dessus les chansons, avant de partir avec sa famille à 12 ans dans le Bronx à New York. Souvenez-vous de l'état de New York dans les années 70. Dans les quartiers majoritairement noirs, c'est encore pire. L'émergence de gangs à la fin des années 60 achève de rendre plein de quartiers modestes malfamés. C'est dans cet environnement que le jeune Hercule, comme le surnomment ses collègues de basket, devient Kool Herc lors de son passage dans un crew de graffiti. Et Kool Herc devient DJ Kool Herc dans les années 70 lorsqu'il crée son propre sound system Herculoids et qu'il tient des soirées en bas de chez lui, dans l'ouest du Bronx. Comme une alternative au disco, considérée comme une musique d'origine noire mais européanisée, Kool Herc joue des morceaux de hard funk, comme certains disques de James Brown ou Apache, de l'Incredible Bongo Band, d'où est tiré ce fameux sample. Le hard funk donne la part belle à des instrumentations dansantes, lourdes, avec presque à chaque fois des breaks, c'est-à-dire un moment au milieu du morceau où on laisse la batterie faire un rythme un peu plus improvisé le temps de quelques mesures. Ces quelques secondes de break sont fatalement celles où les danseurs profitent le plus. Heureusement, Kool Herc arrive à faire durer le moment indéfiniment avec deux platines et deux disques identiques. Chaque break est lancé juste après l'autre, le temps de rembobiner si on peut dire. Parallèlement, les ambianceurs, qui ne seront pas DJ mais bien Master of Ceremony, MC, vont s'affronter et perfectionner leur toast puis leur rap en se clashant les uns les autres, le tout dans un esprit relativement fêtard, pour s'éloigner de l'omniprésence des gangs dans les quartiers. Bref. L'un de ses fils spirituels, Grandmaster Flash, poursuit le perfectionnement de l'enchaînement des disques avec de nouvelles techniques qui lui permettent même de remixer en direct les disques qui passent. C'est par exemple lui qui va découvrir l'effet scratch, particulièrement repris comme élément rythmique dans la musique hip-hop a posteriori. Le scratch préfigure ainsi l'utilisation du sampling dans la musique hip-hop, une technique massivement utilisée durant presque deux décennies pour les instrumentales de rap, accompagnée d'une boîte à rythme particulière, la Roland TR-808. C'est de cette machine japonaise robuste mais relativement bon marché que sortent ces sons. Des sons très simples mais percutants et avec beaucoup de basse. Après la chute du disco au tournant des années 80, de nombreux musiciens inspirés par le funk et par les précurseurs de la synth-pop que sont Kraftwerk et les japonais de Yellow Magic Orchestra, créent une musique qualifiée d'électro-boogie, puis tout simplement d'électro. Celle-ci repousse les limites de la black music dans une alliance improbable entre la chaleur du funk, la froideur des rythmes électroniques de la TR-808 et l'évocation de thèmes futuristes, de science-fiction et des sonorités issues des premiers jeux vidéo. Voici le résultat.
Don't stop, keep ticking and talking, working all around the clock. Everybody keep rocking.
C'était Planet Rock de Afrika Bambaataa et de Soul Sonic Force, sorti en 1982. Afrika Bambaataa fait partie des pères fondateurs du hip-hop avec Kool Herc et Grandmaster Flash, et s'illustre particulièrement en 1982 avec ce tube électro-funk qui sample deux morceaux de Kraftwerk, Trans Europe Express et Numbers. Il fait partie, avec Mantronix ou Warp 9, de ce mouvement qui précède l'arrivée du gangsta rap, un peu bizarre quand on l'écoute a posteriori, avec ses sons de synthé expérimentaux et qui évoquent davantage la science-fiction qu'autre chose. Venu du jazz, Herbie Hancock sort Rocket en 1983, le premier morceau enregistré qui inclut du scratch. Voilà donc le paysage musical où vont naître le garage, la house et la techno. Entre les années 70 et 80, la créativité de la musique populaire est juste massive. D'une part, il y a la scène synth-pop d'origine européenne, qui développe sa propre musique de danse inspirée de la new wave et de la musique industrielle. D'un autre côté, la musique de club américaine, qui prend la forme d'une disco plus synthétique et plus rapide, entrelacée avec la créativité des premières productions hip-hop électroniques. En bref, une émulation artistique assez singulière se dégage des productions utilisant l'électronique. Le mois prochain, nous nous concentrerons sur les pionniers de la house à New York, Chicago, et de la techno à Détroit. Merci d'avoir écouté cette troisième émission de Revolution 909, et à bientôt sur Radio Campus Tour.